foi et turbulence.
Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Foi et Turbulence, qui est assumée aujourd'hui par l'équipe de Pastoral des Dominicains, l'Institut de Pastoral des Dominicains. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un de nos professeurs invités qui est très apprécié. Et si vous êtes habitué de Radio Ville-Marie, vous allez reconnaître sa voix. Il s'agit de Sébastien Daune. Sébastien, bienvenue à l'émission Foi et Turbulence.
Bonjour Michel. Alors, les auditeurs qui écoutent régulièrement Radio Ville-Marie reconnaissent peut-être qu'on a même déjà travaillé ensemble, faire des émissions de la Bible ensemble ici à Radio Ville-Marie dans le temps.
Oui, tout à fait. Je suis le père Michel Proulx. On a eu l'émission à Chemin d'intériorité ensemble. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on va avoir la joie de pouvoir vous connaître un petit peu plus, de pouvoir entendre parler surtout du cours que vous allez donner prochainement, en fait l'été prochain, à l'Institut de Pastoral, un titre très, très original qui s'appelle « De Rembrandt à Lady Gaga, l'art et la Bible ». Dans le fond, vous allez faire le lien entre la Bible et l'art. Comment est-ce que comment la Bible se retrouve dans l'art? Mais tout d'abord, ça serait intéressant de savoir comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce lien entre art et Bible? D'où ça vous vient?
Ben en fait, je pense que c'est quelque chose de très naturel, hein, parce que peu importe quelle sorte d'art on consomme, même si c'est juste la télévision ou les annonces publicitaires, à quelque part, il y a toujours quelque chose qui est inspiré d'un symbole de la Bible ou d'un récit ou qui vient nous chercher. Puis pour celui qui connaît un petit peu la Bible, il va dire « Ah, il y a un lien à faire là ». Alors, nous, on va réfléchir sur ces liens-là. Comment ça se fait? Bon, dans ma propre vie à moi, je dois vous avouer que ce qui m'a frappé dans ma jeunesse, c'était plus la musique. Alors, mes deux parents sont chanteurs. J'ai toujours baigné dans la musique. Entre autres, j'étais chez les petits chanteurs du Mont-Royal. Ah bon? Alors, on a eu à chanter plusieurs chants qui ont des liens avec la Bible,
bien clair. Sûr, oui.
Et il y en a qui nous ont marqué plus que d'autres. Par exemple, il y a un psaume qui était composé de la musique contemporaine. Alors, c'est atonal, c'est très, oui. très, très, très difficile à entendre et à chanter, mais ça prenait un psaume, je pense que c'est 41 ou 71, je ne m'en rappelle pas par cœur, comme un cerf assoiffé, « Cherche l'eau vive, mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
Oui. »
Tout le monde me dit « Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? » Puis là, ben, je le cherche, je le veux, je le vois. Puis on voit toute cette tension-là dans la manière que c'est chanté dans cette composition-là. Alors, la musique, elle est très bien avec les paroles.
Donc la musique faisait donner une profondeur aux paroles, donner comme un contexte pour entendre, donner une profondeur justement à ces textes-là. Hein.
Oui. Sinon, j'aime aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde séculier. Quand j'écoute la télévision, j'écoute toutes sortes de séries, les Simpsons par exemple. Dans les Simpsons, la famille Simpson va reprendre toutes sortes de récits bibliques,
oui.
que ça soit David et Goliath, la naissance de Jésus, la crucifixion, l'Apocalypse, tout y passe. Alors moi, depuis que je lis et je connais la Bible, ben je peux apprécier ces émissions-là autrement. Et ça des fois, ça m'incite à retourner au texte, voir si tu es vraiment là-dedans ou pas, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce récit-là. Bon, même chose dans les films. Souvent, dans les films, il y a toutes sortes de références, parce que dans la Bible, il y a plein de symboles qui peuvent être exploités. Puis, bon, les créateurs de ce monde sont avides de ça pour pouvoir se laisser inspirer puis aller à partir de là créer quelque chose de neuf.
Est-ce qu'il y a autre chose dans votre histoire personnelle qui vous a amené, je dirais, à développer cet intérêt pour la réception de la Bible dans les arts?
Oui. Bon, il y a le premier niveau comme consommateur artistique, mais après ça, il y a eu un deuxième niveau. Quand j'ai commencé à étudier la Bible à l'Université de Montréal, entre autres, j'ai eu un cours spécifiquement sur ce sujet-là.
Ah oui.
Alors là, j'ai été ouvert, initié à ce monde-là. Entre autres, on est allé dans une église de Montréal, l'église Saint-Léon de Westmount. Le plafond est complètement peint, les différentes scènes de l'Apocalypse.
Mm-hmm.
Et on prenait le temps de regarder les textes et ce qui était sur le plafond, voir comment est-ce que le texte interprète. Comment est-ce que ces peintures-là interprètent le texte? Puis comment est-ce qu'elles nous aident à regarder le texte autrement peut-être que ce qu'on avait en tête? Parce que c'est pas évident, hein? Les bêtes dans l'Apocalypse sont... Il y a toutes sortes de choses qui sont énumérées pour les représenter, qu'on arrive à les mettre sur le mur. Ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Puis, par rapport à la peinture, ben moi-même, comme animateur de pastorale, j'ai eu à travailler dans une école secondaire et un de mes projets qui a fonctionné le plus, c'était d'inviter mes élèves à peindre une fresque biblique qui partait de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse sur tous les murs du local de pastorale. Alors donc, les élèves ont eu à eux-mêmes lire le texte puis de voir comment est-ce qu'eux voulaient l'interpréter. Alors ça a été une façon de s'initier au texte biblique tout en s'amusant dans le fond. Là. Mm-hmm.
Puis vous qui êtes bibliste, qui d'ailleurs est en études doctorales présentement, en études bibliques, j'imagine que ça doit vous intéresser de voir que lorsqu'on fait une œuvre d'art, nécessairement, ça ne peut pas être qu'une application directe de la Bible, mais ça suppose toujours une interprétation, un travail d'interprétation de la part de l'artiste.
C'est clair. On va le voir tout à l'heure. On va parler de différentes interprétations particulières, là, mais bon, tu sais, si on veut choisir de représenter Dieu, comment est-ce qu'on le représente? Est-ce que c'est un vieillard? Est-ce que c'est un souffle? Bon, il y a plein de... C'est pas évident. Des fois, le récit va utiliser des mots qui sont difficilement illustrables. Alors, il va falloir les interpréter. Puis même ceux qui le sont facilement, là, tu sais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre, c'est un arbre. Mais quand arrive le temps de le peindre, il faut choisir quel arbre est-ce qu'on va peindre et pourquoi. Alors, bon, la tradition veut que ça soit un pommier, mais ça va pas de soi.
Parce que dans la Genèse, ben on dit pas que c'est un pommier.
Il y a pas de pomme. Alors, tu sais, Adam et Ève, on les représente toujours avec la pomme, mais ça, c'est notre interprétation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a des choix qui sont faits par les artistes, des interprétations. Bon, ça devient des codes. On finit par comprendre, tu sais, dans un film, quand on voit Jésus apparaître, on le sait tout de suite que c'est lui par ses cheveux, sa barbe. Bon, est-ce que Jésus avait vraiment une barbe? On le sait pas. Les textes bibliques en parlent pas. Mais comme artiste, on choisit d'interpréter tel ou tel personnage de cette façon. Alors oui, il y a constamment des choix. Et le fait de faire une œuvre d'art à partir d'un texte va nous obliger à montrer les choix qu'on fait. On peut pas juste rester dans on peut pas juste copier-coller le texte. Il faut mettre de soi. Puis bon, qu'est-ce qu'on met là-dedans nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher d'autres références culturelles qui sont proches du texte? Est-ce qu'on va exploiter quelque chose? Il y en a qui vont même inventer des choses. Tu prends le récit de départ, puis oups, pour aller plus loin sur un détail qui est pas mentionné, ben on continue un peu le texte dans notre tête, qu'est-ce qu'on penserait que ça serait? Ou on va enlever un élément. On dit, cet élément-là, ça a pas de sens. On n'est pas pour le mettre dans notre interprétation, on enlève ça. Alors donc, les interprètes des textes bibliques, quand ils vont faire des films, des peintures, de la musique avec ça, ils ont toutes sortes de choix à faire devant le texte biblique. Et nous, dans le cours qu'on va faire cet été, ça va être justement d'essayer de suivre ces choix-là. Voir quels choix ont été faits, pourquoi. Est-ce que nous-mêmes, devant ce texte-là, on ferait les mêmes choix? Est-ce qu'on en ferait d'autres? Qu'est-ce qui a été ajouté, retranché du texte? Qu'est-ce qui est souligné? Pourquoi? Alors donc, ça devient des espèces de... Dans le fond, c'est un prétexte pour s'intéresser à la Bible, oui. Puis d'y réfléchir.
Puis ça nous confronte, une œuvre d'art, parce qu'habituellement, on se fait une image dans notre tête, on se fait une idée. Lorsqu'on entend un récit biblique, il y a nécessairement des images qui viennent dans notre tête.
Ah oui.
Alors, lorsqu'on entend une pièce musicale qui chante un texte biblique ou une œuvre picturale qui représente une scène biblique, parfois, ça nous heurte parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on s'en faisait.
Tout à fait. Puis des fois... Bon, tu sais, par exemple, on apprend que tout le monde a en tête la fameuse scène du dernier repas de Leonardo da Vinci. Tout le monde est du même côté de la table. Ben, c'est impensable. Quelle famille va se rassembler pour manger un repas tout le monde d'un côté? Ça se fait pas. Alors donc, il y a une distorsion, mais pourtant, dans notre tête, quand on pense dernier repas de Jésus, on pense ça comme ça.
Et en plus, on sait qu'historiquement, lorsqu'il y avait un banquet comme ça, on n'était pas assis sur une chaise comme on l'est dans notre société aujourd'hui. On était plutôt étendu sur une espèce de fauteuil.
Donc ça, oui. Puis une autre réponse que je donnerais à votre question, c'est que certains artistes font exprès pour provoquer. Alors, oui. Ils vont justement faire en sorte que leur œuvre va avoir un effet choc sur le spectateur pour qu'ils disent « Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. » Alors, par exemple, de mettre Jésus, au lieu de le mettre en croix, de mettre Jésus sur une chaise électrique pour faire un lien entre l'exécution au temps des Romains et l'exécution aux États-Unis il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites comme ça, mais justement, ça nous provoque notre regard, on dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, on comprend, puis on finit par faire des liens, puis dans le fond, ça nous aide à mieux comprendre le texte biblique. Bon, c'est sûr que des fois, il y a des provocations juste pour le fait de provoquer. Une œuvre qui représente Jésus faite avec de l'urine, par exemple. Bon, il y a toutes sortes de choses qui existent, là. Mais c'est ça. Mais c'est à nous de voir quelle est la valeur de ces choses-là.
Oui, et par ailleurs, on a parlé de provocation, mais l'art peut aussi nous aider à contempler une page biblique peut nous révéler des dimensions auxquelles on n'avait pas pensé en lisant le texte. Ça peut vraiment aller chercher des nouvelles pistes de compréhension.
La fameuse œuvre de Rembrandt, l'enfant prodigue, tout le monde parle de ça, là, la compassion de Dieu qui est transmise à travers cette image-là de Rembrandt. Oui, ça peut nous porter à la prière, à la contemplation, nous aider à mieux comprendre Dieu. Donc, tout ça, c'est possible.
Je vous propose, Sébastien, que nous allions écouter une première pièce musicale. C'est « Abraham et papa » de Sylvain Lelièvre.
Il faut l'écouter attentivement parce qu'on va justement en reparler tout de suite après.
Très bien. Alors, on écoute ça ensemble.
Autrefois, Yahvé vint prendre le thé chez son vieux pote Abraham. Il lui dit, mon vieux, t'as l'air de douter, je dois éprouver ton âme. Si tu crois en moi, si j'ai ton soutien, en un mot, si t'as la foi, ton petit vaut rien de fils. Il faut rien, tu l'immoleras pour moi. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça. Dire qu'Abraham approchait alors plus ou moins 140 ans, qu'il fut quelque peu fêlé sur les bords, c'est bien possible, et pourtant il partit dès l'aube du lendemain, emmenant son fils avec lui, et sans dire un mot, il prit le chemin dont son Dieu l'avait instruit. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça. Tant de bois, demande Isaac, tel était le nom. Son père lui répond, sans le moindre trac, on va faire un sacrifice. Et pas tant dit l'autre, mais y a pas d'agneau, sans agneau, pas de méchoui. Et soudain le vieux brandit son couteau. Soudain le fils a compris. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça. Connais la suite, l'ange est arrivé, stoppant le bras du prophète. Faut croire que la chose amusa Yahvé, puisqu'un jour il l'a refaite. Des siècles plus tard, sous un autre nom, il envoie son propre fils crevait sur la croix, mais pas d'ange, non, pour le soustraire au supplice. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça.
Vous êtes à votre émission Foi et Turbulence, aujourd'hui une émission assumée par l'Institut de Pastoral des Dominicains, avec vous le Père Michel Proulx, et je reçois un de mes collègues, un professeur invité à l'Institut de Pastoral, qui est Sébastien Daune, qui nous parle aujourd'hui du cours qu'il va donner l'été prochain, intitulé « De Rembrandt à Lady Gaga, l'art dans la Bible ». Sébastien, on vient d'entendre cette pièce « Abraham » et papa de Sylvain Lelièvre. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans cette pièce-là?
Moi, la question avec laquelle j'aime commencer par rapport à une œuvre artistique, c'est quel est l'effet de cette œuvre sur moi?
Ah oui.
Ça marche pour n'importe quelle œuvre, hein? Pas nécessairement ayant un rapport à la Bible, mais en particulier, on regarde quelque chose qui a un rapport
oui,
à la Bible.
Mais
c'est quoi l'effet de cette œuvre-là sur moi? Puis ça marche pour tous les formats. Là, c'est une œuvre musicale. En écoutant ça, moi, ça m'a provoqué toutes sortes d'effets. Un peu de surprise la première fois, parce que, oups, il y a un rapport au texte de Genèse 22 qui me surprend. Bon, pourquoi? Comment? Ben, une des surprises, c'est que ça fait un lien en notre vie personnelle à nous. Parce que c'est « Toi, t'aurais jamais fait ça, papa. » comme si c'était mon père à moi, là.
C'est
alors,
ça.
Le père d'Isaac, Abraham, c'est un personnage lointain, c'est un personnage dans l'histoire.
Il est comme superposé, là, avec...
Oui, ben c'est ça. Normalement, moi, je suis habitué de lire le texte d'Abraham sans que ça ait un lien avec ma vie tant que ça, là. T'sais, c'est quelque chose, c'est une histoire lointaine. Mais là, mis en musique de cette façon-là, « Toi, papa, t'aurais pas fait ça, hein?
Mm-hmm. »
Puis ça laisse planer le doute. Puis bon, alors moi, ça me fait réagir, là. Moi aussi, je me demande, mon père, il aurait-tu pu faire quelque chose comme ça? Non. Heureusement pas. Mais donc, il y a un effet du texte qui nous ramène. Puis c'est un des propres de la musique. Quand la musique reprend des textes bibliques, souvent, les chanteurs vont faire des liens entre notre vie à nous et le texte de la Bible par ce moyen-là. Ils vont nous interpeller, ils vont faire des petites allusions qui fait en sorte qu'ils parlent en même temps du texte qui a été écrit sur il y a super longtemps, puis de nous aujourd'hui.
Une forme d'actualisation.
Bon, cela dit, comment est-ce qu'il interprète ce texte-là? Il y a toutes sortes de choses intéressantes là-dedans.
Ah oui, montrez-nous donc ça un peu.
Mais la première chose, c'est la vision de Dieu derrière ça. Sylvain Lelièvre, c'est pas un théologien, c'est pas un homme de l'Église. Ça d'ailleurs, c'est une des interprétations qui est, on pourrait dire séculière. Là, ça fait pareil. Lui, il a pas écrit ça pour nous ramener à Dieu. Il a écrit ça pour faire parce qu'il fait de la musique. Puis c'est ça. Alors donc, quelle est l'image qui est là-dedans de Dieu? C'est pas nécessairement l'image du Dieu de l'Église ou de la Bible, mais bon, c'est clairement en lien avec le texte de Genèse 22, mais c'est pas tout à fait le Dieu de la Bible. C'est son interprétation du Dieu de la Bible. Puis son interprétation est assez particulière parce que on semble y retrouver un espèce de Dieu omnipotent, oppressant, arbitraire, tu sais, qui semble même prendre plaisir aux souffrances de l'être humain, là, puis qui a besoin de ce sacrifice-là, on ne sait pas pourquoi, puis on va y revenir tout à l'heure, mais il parle aussi du sacrifice de Jésus comme quelque chose, tu sais, en tout cas, moi, je m'y retrouve pas tant que ça dans cette image de Dieu-là.
C'est pas le Dieu de la Bible.
C'est pas nécessairement ça, mais quoique, il y a des éléments bibliques là-dedans aussi, mais ce qui est intéressant avec Dieu dans la Bible, c'est qu'on a multiples références, on a plein d'images, puis c'est à nous comme lecteurs de voir, ben moi, dans mon expérience spirituelle, c'est lequel de ces dieux-là, là, c'est quel aspect qu'est-ce qui me rejoint. Puis bon, il y a certainement des personnes qui, comme Sylvain Lelièvre, ont cette image de Dieu-là en tête, et ça nous rejoint un peu, parce que bon, veut pas, on a tous entendu parler d'un Dieu un peu de cette façon-là, même si c'est pas notre Dieu qu'on porte. Des fois, il est là un petit peu comme sous-jacent ou en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ce que je trouve intéressant de cette pièce-là, c'est que ça nous aide à réfléchir sur les images de Dieu qu'on porte.
Ah oui.
À partir de ça, on peut faire un petit bout.
Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans votre cours?
Oui.
Est-ce que vous analysez un petit peu, vous faites ressortir des images de Dieu, vous allez amener vos étudiants à se questionner sur leur propre vision?
Parce que dans le fond, on ne travaille pas juste les textes bibliques, on va les lire. Normalement, on lirait Genèse 22, voir la différence entre la musique et ce qui est dans le texte. On travaille l'œuvre comme telle, mais on travaille soi-même aussi, on se travaille sur soi.
Ah oui.
Pour voir, nous, est-ce que notre façon de lire la Bible, notre interprétation serait la même ou pas, puis comment. Entre autres, un des points qui est intéressant dans l'interprétation de Sylvain Lelièvre, c'est de mettre l'accent sur le sacrifice, tu sais, puis de voir que le sacrifice humain, ça n'a aucun sens. Puis, bon, ça nous fait réfléchir. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices humains, ils sont aussi décriés, mais il y a même des rois qui vont le faire. Est-ce que ce texte-là nous porte à faire des sacrifices ou pas? Bon, ultimement, je crois que non, parce qu'à la fin, justement, il n'y a pas de sacrifice.
Exactement. Oui.
Dieu arrête le bras d'Abraham. Mm-hmm.
Si jamais nos auditeurs veulent aller regarder ça, on ne l'a pas mentionné, mais c'est dans Genèse 22.
Oui.
Alors, ils pourront...
aller les lire de la parole.
Oui,
même.
Pour aller voir quel est le texte là, biblique lui-même, et puis comparer avec ce que nous avons entendu de Sylvain Lelièvre. J'imagine que vous allez faire ça en classe, de confronter texte biblique lui-même avec l'œuvre.
Il y a le texte de Genèse 22, mais Sylvain Lelièvre fait référence aussi à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, c'est vraiment presque horrible, il dit que Dieu, Yahvé, il prend plaisir à ça, parce que même plus tard, des milliers d'années plus tard, il leur fait encore mm-hmm. un autre sacrifice avec Jésus, puis tout ça. Honnêtement, il faudrait retourner au texte du Nouveau Testament. Est-ce que la mort de Jésus-Christ est sacrificielle ou pas? Peut-être. Il y a certainement la lettre aux Hébreux qui dirait oui, mais il y a d'autres textes qui interpréteraient la mort de Jésus de d'autres façons. Mm-hmm. Alors, par exemple, je sais pas, en Jean, c'est l'élévation. Celui qui est l'envoyé du ciel sur terre, ben retourne vers le ciel. Alors, c'est le lieu de la glorification, la croix. C'est pas le lieu du sacrifice. Ou Marc, ça serait le contraire. T'sais, c'est l'abandon total. Bon, donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On voit qu'il y a une multiplicité d'interprétations, mais l'interprétation de Sylvain Lelièvre nous choque un peu, ça vient nous chercher, puis c'est tant mieux, parce qu'avec ça, on va pouvoir réfléchir. Là. Mm-hmm.
Puis j'imagine que dans votre cours, vous allez examiner un certain nombre d'œuvres musicales, ça ne sera probablement pas la seule.
Non.
Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez en tête, que vous pensez regarder,
écouter? J'ai toute une liste de musiques qui ont été faites sur le Cantique des Cantiques, qui m'intéresse beaucoup. Vous connaissez le Cantique des Cantiques?
Bien sûr.
C'est des psaumes sensuels, d'amour. Il y a toutes sortes de choses.
C'est vraiment, après un premier niveau, on peut dire que c'est un livre érotique, en
quasiment.
Fait.
Quasiment. C'est un homme et une femme qui découvrent la beauté de l'amour puis qui se le disent.
Oui, puis qu'ils vivent corporellement aussi.
Exactement. Puis bon, mais traditionnellement, on a toujours eu aussi une autre interprétation,
exact.
Que ça représentait Dieu et son peuple, alors l'amour ou même Jésus, son Église, etc. Il y a eu toutes sortes de façons, toutes sortes d'interprétations allégoriques de ça. Alors là, ça serait intéressant de voir, dans les reprises du Cantique des Cantiques en chanson, ben, quel aspect est mis de l'avant. Entre autres, il y a mes aïeux qui font une chanson, Juste et bon, où là, ben, c'est le curé qui parle à une femme qui veut pas avoir d'enfant, ben, il lui lit le Cantique des Cantiques pour la mettre en appétit. C'est une excellente chanson, mais on n'aura pas le temps de l'écouter aujourd'hui, mais vous viendrez au cours. Mais sinon...
Mais vous nous donnez vraiment le goût là, d'aller à votre cours.
Mais alors, donc, ça, puis c'est très québécois comme interprétation, ça, Juste et bon. Puis c'est le texte tel quel du Cantique des Cantiques qui est incorporé dans une espèce d'histoire que mes aïeux nous racontent sur les curés dans le temps. Mais il y en a d'autres aussi. Une qu'on pourrait écouter, c'est Alain Bachung qui venait de se marier avec Chloé Mons. Et ensemble, comme couple, ils ont réciter le Cantique des Cantiques, ils l'ont enregistré. Et derrière leur récitation, bien, il y a toutes sortes d'espèces de beats urbains. Ça fait une musique... Moi, je trouve que ça fait un peu clash avec le texte le texte du Cantique des Cantiques est très naturel. On est dans la nature, on compare la femme à une biche, à toutes sortes d'animaux et tout ça. Et là, on a une musique urbaine qui est là, en arrière. Alors, ça vient nous déranger un peu, mais en même temps, ça nous ouvre le texte à d'autres choses. Ça, c'est un aspect de la musique. Quand on traduit un texte en musique, ben on rajoute toutes sortes de choses avec la mélodie, les rythmes, ça va chercher les émotions, même sans les paroles, on a déjà quelque chose.
Ça donne une autre dimension.
Oui.
J'ai, en préparation à notre émission, j'ai pris le temps d'aller écouter ce Cantique des Cantiques, tel que récité par...
Alain Bachung.
Oui, et puis je me disais, on dirait que ça fait résonner le texte autrement, ça lui donne une
c'est
nouvelle dimension.
C'est certainement plus moderne, parce que bon, c'est
moi, j'aime beaucoup ça.
Ah oui, oui. Puis ce que j'aime dans tout ça, c'est aussi le côté intime de ça. C'est un homme et une femme qui s'aiment vraiment, qui redisent ces paroles-là, qui se les redisent l'un à l'autre.
Ça l'humanise beaucoup.
Beaucoup.
Bien, écoutez, depuis on en parle de tantôt, je vous propose que sans plus tarder, nous allions écouter un extrait, parce qu'on ne peut pas écouter le cantique au complet, mais je vous propose qu'on aille en écouter un extrait. Je pense que nos éditeurs vont y découvrir là, quelque chose de nouvelle salle.
Des baisers, des baisers de sa bouche. C'est très bon, tes amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. On a bien raison de t'aimer, fille de Jérusalem. Je suis noire et magnifique, comme les tentes de Kedar, comme les teintures de Salomon. Mais ne me voyez pas si noire. Celui qui m'a bruni, c'est le soleil. Raconte où est le pré, toi que j'aime, moi. Là où tu emmènes les bêtes, comment tu les fais reposer à midi. Je ne serai plus perdue au milieu des troupeaux de tes amis.
Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, allez, sors à la poursuite du petit bétail. Emmène auprès tes petites chèvres, tout près des maisons des bergers. Mon ami, je te compare, une jument entre les chars du pharaon. Tes joues sont jolies entre les colliers, et ton cou entre les perles. Nous te ferons des colliers d'or constellés d'argent.
Le roi est au milieu de sa cour, et là, mon parfum de nard donne son odeur. Un petit bouquet de myrrhe, c'est mon amour à moi. Il passe la nuit entre mes seins, une grappe de henné. C'est mon amour à moi dans les vignes, à Ein Gedi.
Allez, lève-toi, mon ami Babel, en avant. Regarde, l'hiver est fini, la pluie a cessé, elle s'en va. Première figue du figuier, les vignes en fleurs donnent une odeur. Lève-toi, mon ami, ma belle, en avant. Ma colombe du creux des roches, dans la cachette des falaises. Fais-moi voir ton visage, fais-moi écouter ta voix si tendre, magnifique, ton visage.
Mon amour est à moi et moi à lui, celui qui emmène auprès entre l'Ulysse. Tourne-toi, mon amour, avant le souffle du matin, avant la fuite des ombres. Allez, deviens un cerf, un petit chevreuil, au-dessus des montagnes, séparation.
Te voilà, mon ami, si belle, te voilà, si belle. Derrière ton voile, tes yeux, ô des colombes. Ici tes cheveux, des chèvres noires des vals de la montagne de Galat. Ici tes dents, un troupeau tout blanc, remonte du bain, chacune à sa jumelle. Aucune ne manque, tes lèvres ressemblent à un fil écarlate. Quand tu parles, c'est magnifique. Ta joue derrière ton voile, pareil à une moitié de grenade. Tes deux seins seraient deux fangs, jumeaux d'une gazelle au pré entre les lys. Avant le souffle du matin, avant la fuite des ombres, moi j'irai sur la montagne myrrhe et sur la colline en sang. Entièrement belle, mon ami, toi, sans défaut.
Allez, réveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, envoie le vin dans mon jardin, torrent de baume. Mon amour viendra dans son jardin, manger les fruits merveilles.
Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Vite, ma tête est couverte de rosée, mes boucles gouttent de nuit.
Mon amour est éclatant et vermeil, remarquable entre 10 000, sa tête est en or fin. Voilà ses boucles, palmes noires, corbeaux, ses yeux, presque des colombes près des torrents d'eau, baignant dans le lait, posé sur un bassin rempli, sa joue égale carré de baume, massif arôme d'herbe, ses lèvres, oh, délices, trempées, la myrrhe s'écoule, ses mains, oh, des anneaux d'or sertis d'émeraude, son ventre, oh, un bloc d'ivoire couvert de saphir, oh, ses jambes, colonnes d'albâtre plantées sur des socles d'or, son visage comme le Liban, élu comme le cèdre, son palais, sa douceur, tout en lui est précieux. Celui-là, c'est mon amour, celui-là, c'est mon ami, fille de Jérusalem.
Ton amour est-il si différent des autres?
Ton amour est-il si différent des autres?
Toi la plus belle femme des femmes,
toi la plus belle femme des femmes.
Ton amour est-il si différent des autres pour nous adjurer ainsi?
Ton amour est-il si différent des autres pour nous adjurer ainsi?
De Radio-VM et vous êtes à l'écoute de votre émission Foi et Turbulence qui aujourd'hui est assumée par l'équipe des professeurs de l'Institut de pastoral des Dominicains. C'est Michel Proulx qui est avec vous au micro et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui un de nos professeurs invités à l'Institut de pastoral qui est Sébastien Daune et il vient nous parler d'un cours qu'il va donner l'été prochain sur le lien entre la Bible et l'art, sur la réception de la Bible dans l'art, un cours qu'il intitule de Rembrandt à Lady Gaga, l'art et la Bible. Sébastien, on pourrait maintenant parler d'un autre art dans lequel il y a une réception de la Bible, le cinéma. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il y a un premier film dont vous pourriez nous parler, qui est tout récent, le film L'Exode, Dieu et Roi, qui passe encore sur nos écrans.
Oui, parce que, bon, il y a toutes sortes de films. Les films bibliques sont à la mode ces temps-ci. Hein. Il y a eu Noé, entre autres, mais c'est quelque chose, Hollywood a l'air à vouloir en faire le plus possible.
Ouais.
Bon, on aurait pu prendre toutes sortes d'exemples, mais tant qu'à faire, on va prendre celui qui est le plus d'actuel. Oui, on peut parler de la réception de la Bible au cinéma. Alors, bon, dans ce cas-ci, j'aimerais ça commencer par une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Je ne sais pas, contez-nous ça.
Une mère avait un enfant qui allait au catéchisme le dimanche. Bon, il revient à la maison, puis elle dit, ben, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ben, maman, OK, je vais te la raconter. Tu sais, les esclaves juifs, ben, ils étaient en Égypte, puis ils se sont enfuis. Puis bon, Moïse est parti avec sa gang, ils ont installé leur camp proche de la mer, puis ben, le problème, c'est que Pharaon est arrivé après ça, puis s'est lancé à sa poursuite. Puis il y avait au moins 600 tanks, puis des avions, puis tout ça. C'est que là, Moïse savait pas trop quoi faire. Ben, devant la mer, comment est-ce qu'il allait traverser? Ben, il a demandé à ses ingénieurs de faire une espèce de pont high-tech, là, pour aller jusque l'autre bord. Puis, pendant ce temps-là, pour ralentir les tanks qui s'en venaient, ben, il a ordonné à ses personnes d'aller, ses soldats, d'aller placer des mines antipersonnelles, puis contre les tanks et tout ça pour ralentir leur progression. Puis, c'est arrivé, là, ça avait pas de sens. Juste au moment où ils réussissent à traverser le pont, ben, les tanks arrivaient, puis ils ont commencé eux autres aussi. Puis c'est là qu'il a demandé à ses soldats de faire exploser le pont, puis toute l'armée égyptienne est tombée dans l'eau, puis sont morts, là. Là, la mère de l'enfant, elle dit, ben, c'est-tu vraiment ça qu'ils t'ont enseigné? Et l'enfant de répondre, ben, pas vraiment, mais si je te raconte ce qu'ils nous ont enseigné, tu le croirais pas.
Alors, c'était toute une actualisation que ce petit bonhomme-là se trouvait à faire.
Puis, je vous raconte ça parce que je pense que cette histoire-là, c'est une bonne analogie pour nous dire, le dilemme dans lequel ce film-là se trouve. Est-ce que on raconte les récits merveilleux, surnaturels, qui sont dans le livre de l'Exode tels qu'ils sont là, et que, à quelque part, ça nous pose problème comme homme rationnel du 21e siècle, hommes et femmes, ou est-ce que on va l'adapter, puis on va essayer de rendre ça plus accessible, tu sais, puis on va essayer de trouver des causes, on va essayer de rendre ça plus probable.
Plus acceptable pour notre rationalité.
Oui, c'est ça, plus rationnel. Alors, je crois que le réalisateur du film a comme essayé de ménager la chèvre et le chou. Il a fait comme un entre-deux, et malheureusement, ça n'a pas vraiment plus d'un côté ni de l'autre. Alors, d'un côté, les gens d'Église, les biblistes et tout ça disent, bon, ben, c'est loin d'être une lecture littérale du texte. Il y a toutes sortes d'éléments qui sont pas fidèles. Je sais pas si les auditeurs ont remarqué qu'est-ce qu'il y avait de différent entre le film et le texte, mais il y a beaucoup de choses. Entre autres, moi, ce qui m'a frappé, ben, Moïse, quand il tue un Égyptien, dans le film, c'est pour se protéger lui-même, alors que dans le texte biblique, ben, c'est pour sauver... C'est en réponse à un de ses confrères, un Hébreu, qui venait de se faire frapper par un Égyptien. Alors, donc, il y a une grosse différence là. Bon, la fin du film, c'est une espèce de raz-de-marée avec les vagues qui reviennent, puis bon, ça semble être quelque chose de naturel. Dieu intervient pas spécifiquement ouais. là-dedans.
Alors simplement que, un phénomène naturel.
Ben oui, de marée puis tout ça. Alors que dans le texte biblique, c'est assez clair que c'est Yahvé qui fait ça. C'est le Dieu. Bon, puis le bâton. Normalement, Moïse, il met son bâton dans la mer puis ça se sépare. Bon. Dans le texte, dans le film, c'est une épée égyptienne que Moïse transporte tout le temps au lieu d'être un bâton donné par Dieu. Alors, il y a toutes sortes de petites choses. Bon, honnêtement, c'est pas la fin du monde, mais ça nous montre qu'on n'est pas dans une reprise littérale du texte.
C'est ça. Puis ce n'est pas non plus une simple réinterprétation, mais on est parti d'un canevas de base du texte biblique pour, dans le fond, faire presque tout autre chose.
Oui. Puis, comme lecteur contemporain, un des personnages que j'ai aimé beaucoup, là, une des scènes qui m'a marqué, c'est un des conseillers du pharaon qui, devant toutes les plaies, on se pose la question, là, la cour est là, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi est-ce qu'on a tout ça qui se passe, là. Puis, bon, ce conseiller-là essaie de rationaliser tout ça. Tu sais, de dire, bon, ben, là, on a eu beaucoup d'eau cette année, ça a amené beaucoup de boue, puis là, avec cette boue-là, il devait avoir des larves là-dedans, puis plusieurs insectes, puis bon, qu'est-ce qui mange les insectes? Des grenouilles, puis bon, puis là, le pharaon le regarde très dubitatif, puis il dit, bon, ouais, ça me convainc pas pantoute, ça.
Sébastien, on pourrait peut-être voir un autre genre d'œuvre cinématographique. Je sais pas si vous pensez aborder ça dans votre cours, mais un film ici au Québec qui avait quand même fait, qui avait eu une réception intéressante, c'était Le Jésus de Montréal de Denis Arcand. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, si vous pensez aborder ça un peu dans votre cours.
Oui, je pense.
C'est un tout autre type de rapport.
Exactement, parce qu'au lieu d'essayer de reproduire qu'est-ce qu'on voit dans le récit, puis bon, avec plus ou moins de réussite, Denis Arcand a décidé de faire autre chose complètement, de se laisser inspirer par le récit de la passion de Jésus et de créer un personnage contemporain qui a des enjeux similaires aux enjeux de Jésus dans un monde complètement différent et qui doit, bon, grâce à ça, on va être capable comme spectateur de faire le lien entre l'un et l'autre puis de se poser des questions. Mais en même temps, on n'est pas juste dans une reproduction de qu'est-ce qui aurait dû se passer à l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, comme par exemple la résurrection de Jésus, dans le film de Denis Arcand, ben, c'est le personnage, une fois qu'il est décédé, il donne ses organes. Alors, il y a un don d'organes puis, bon, la vie continue d'une autre façon. C'est sûr que c'est pas de la manière qu'on parle de la résurrection en Église, mais c'en est une quand même. Bon, c'est les autres, c'est ceux qui jouent le rôle de ses disciples, entre guillemets, ben, continuent à se rassembler puis à faire quelque chose en mémoire de lui. Bon, alors, il y a des façons de reprendre le texte des Évangiles, mais c'est pas le même rapport que le film dont on parlait sur l'Exode. C'est un rapport beaucoup plus allégorique, où là, on va raconter une autre histoire tout en faisant des liens, mais il y a des liens à faire, puis une réflexion à faire là-dessus aussi.
Et c'est intéressant de voir comment la Bible intéresse encore des gens aujourd'hui, intéresse encore des artistes aujourd'hui.
Et des artistes même athées. Alors, on parle de films, mais on pourrait parler de musique et tout ça. Là, dans le titre, vous parliez de Lady Gaga. Il y a plein d'artistes qui sont plus ou moins religieux, mais pour qui la foi et les questions, les récits bibliques et tout ça sont porteurs de questions importantes, sont porteurs des questions existentielles devant la vie, la mort, l'amour. Et pour eux, c'est une source presque inépuisable d'inspiration. Alors, ils vont prendre ces textes bibliques-là et ils vont les réactualiser à leur sauce avec leurs propres questions. C'est sûr que, comme croyants, des fois, on se retrouve pas devant ça, puis on va pas retrouver nécessairement le Dieu qu'on croit là, mais ça va nous aider à réfléchir sur notre Dieu quand même. Alors, bon, là, on parle de cinéma, mais c'est la même chose dans les émissions de télévision. Je parlais des Simpsons tout à l'heure. Il y a plein de dessins animés où Jésus, Dieu apparaissent comme des personnages réguliers. Bon, alors, oui, ça fait partie de tout ça.
C'est sûr que le rapport avec l'art n'a pas toujours été le même, parce qu'on peut penser que dans la tradition de l'Église, bien souvent, l'Église a été mécène, a embauché des artistes pour représenter des réalités bibliques. À ce moment-là, il y avait une commande et puis l'artiste se devait d'avoir une certaine fidélité à la foi de l'Église.
Et il ne faut pas se le cacher, il y avait une certaine censure aussi.
Oui.
Alors, un artiste qui produisait quelque chose qui choquait trop, ben, son œuvre se voyait détruite. Alors que là, aujourd'hui, on a des œuvres qui ne sont pas du tout issues du milieu religieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes du milieu religieux comme nous, qui peuvent s'intéresser à ces œuvres-là et essayer de mieux comprendre notre foi grâce à ces œuvres.
Mm-hmm. Et c'est intéressant de voir que des gens qui ne sont pas du monde de l'Église, ne sont pas nécessairement de l'intérieur, qui vont avoir assez d'intérêt, voire assez de pertinence à la Bible pour tenter d'inclure des passages ou des thématiques bibliques dans leur œuvre artistique.
Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça serait comme une autre forme de cinéma. Ça serait de faire une œuvre complètement différente qui n'a aucun lien avec un texte biblique spécifique, mais qui reprend les mêmes thématiques. Alors, on pourrait voir ça autrement. Mais je nous propose pour transition avec le prochain bloc, d'écouter un peu de musique, justement, d'un film qui parle de Jésus, qui a causé un certain scandale quand même, The Last Temptation of Christ. La musique aussi était un peu bizarre. Donc, on peut écouter ça.
Je crois que vous parlez du film de Scorsese.
Exactement.
D'accord, alors allons écouter ça ensemble. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio-VM avec vous, Michel Proulx, à votre émission Foi et Turbulence. Aujourd'hui, l'émission est assumée par une équipe de professeurs de l'Institut de pastoral des Dominicains. J'ai la joie d'accueillir Sébastien Daune, qui est un de nos professeurs invités et qui nous parle aujourd'hui d'un cours qu'il va donner l'été prochain, qu'il intitule « De Rembrandt à Lady Gaga, l'art et la Bible ». Sébastien Daune, on pourrait peut-être maintenant parler du rapport entre la Bible et la peinture. Comment est-ce que la peinture reprend le texte biblique?
Il y a des défis particuliers. Si on était devant un texte devant nous, là, disons on prend Exode 3 par exemple, la rencontre de Moïse et de Yahvé, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Vous parlez du buisson ardent.
Le buisson ardent.
Okay.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a le texte devant nous. Là, on veut le peindre. Il y a toutes sortes de défis. Premier défi, c'est qu'il faut choisir le moment qu'on veut. Parce que, bon, le texte biblique, lui, c'est une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Ça, c'est un événement. Puis
il y a une évolution.
Il y a une évolution. L'image, c'est un moment. Alors, il faut choisir le moment.
Ah, oui.
Et des fois, il y en a qui vont tricher un peu là-dedans. On va voir ça. Mais en peinture, c'est un des défis, c'est de trouver le moment. Autre défi, les mots vont pas de soi. Elles sont pas faciles à illustrer nécessairement. En particulier, si on prend Exode 3, le buisson ardent, comment est-ce qu'on représente Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'un buisson qui est en flamme, mais qui reste vert en même temps, là, tu sais, qui se consomme pas? Comment est-ce qu'on va faire pour représenter ça? Ce qui est invisible, c'est particulièrement difficile à reproduire en peinture. Puis bon, puis même les choses qui sont visibles, il faut faire un choix. Moïse, quelle sera la couleur de sa peau? Mm-hmm. Est-ce que ça va être un blanc? Est-ce que ça va être une personne qui avec des traits du Moyen-Orient? Il y a plein de choix qu'on a à faire devant ça, qui sont pas marqués dans le texte quoi faire. C'est nous, comme interprètes, qui devons faire ces choix-là.
Oui, je comprends.
Donc, est-ce qu'on prend cet exemple?
Oui, allons-y.
Dans cet exemple, moi, j'ai fait une petite recherche.
Parce que je pense que c'est une scène qui a été représentée de nombreuses fois.
De nombreuses fois, puis de façon très différente les unes des autres. La première que j'aimerais, bon, évoquer, parce qu'on peut pas le voir à la radio, on a quand même des limites.
Oui.
Ça vient d'un texte biblique. Alors, des enluminures dans les marges des Bibles, les moines au Moyen-Âge faisaient une enluminure. Bien, ce qui est particulier, c'est qu'au milieu de la flamme, on a un personnage qui s'élève avec une auréole et c'est une représentation de Jésus. Alors, c'est comme si ça nous disait que ce Dieu qui se révèle à Moïse, à quelque part, c'est aussi Jésus du Nouveau Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament.
C'est pas bête, parce que Jésus, dans l'Évangile de Jean, il se présente aussi comme « Je suis ».
Oui, alors, mais c'est quand même quelque chose de faire le lien entre ces deux textes-là. Ça va pas de soi.
C'est comme une relecture chrétienne.
C'est une relecture chrétienne et c'est correct. Mais c'est clair que le moine qui fait ça fait une relecture chrétienne qui est pas du tout dans le texte de l'Exode, mais par son image, on voit très clairement ce qu'il fait. Bon, d'autre part, il y a d'autres... Quand on arrive au 17e siècle, il y a d'autres façons plus classiques de peindre. Il y en a qui vont respecter le côté naturel de la scène, où là, on voit rien d'autre qu'un buisson en feu, puis que comme Moïse, peut-être, on se demande qu'est-ce que c'est que c'est ça. On comprend pas que c'est nécessairement Dieu qui est là, c'est plus le côté naturel. Bon.
Et bien souvent, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu des périodes où on n'avait pas le sens historique qu'on peut avoir aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et donc, on se représente les choses de l'Antiquité telles qu'on les vivait à l'époque où on peint.
Puis ne serait-ce que la manière dont Moïse est habillé, puis bon, etc. Alors, on voyait, puis la nature, c'est la nature de
l'Europe,
etc. Mais sur la figure de Dieu, ce qui est intéressant, si on va vers d'autres œuvres, il y en a une qui vient de Sébastien Bourdon au 17e siècle aussi, où là, bon, lui, c'est un vieillard. Alors, c'est le fameux Dieu qu'on représente avec une grande barbe, un peu comme dans les Simpsons ou dans South Park. On va voir encore aujourd'hui dans nos dessins animés Dieu sous les traits d'un vieillard avec une barbe. Bon, alors ça vient de loin, ça, cette représentation-là. D'autres qui nous peuvent peut-être, mais en tout cas, moi, ça m'a troublé. J'ai vu ça, je disais, waouh, j'aurais jamais fait ça moi-même. Au 15e siècle, Marie avait une importance assez forte dans certaines dévotions et tout ça. Alors là, au milieu du buisson ardent, ben on a Marie avec son enfant dans les bras. Alors, encore une fois, tout comme dans l'enluminure de tout à l'heure, c'est une relecture chrétienne, mais non seulement Jésus est là, mais Marie aussi est comme fait presque partie de la divinité.
Mm-hmm.
Le Dieu qui se révèle à Moïse se révèle sous les traits de Marie et son enfant.
Mm-hmm.
Et Marie est beaucoup plus grande que le petit enfant, là. Alors, ça montre qu'il y a un accent théologique qui, moi, me paraît un peu particulier. Donc, on voit un petit peu de tout. Même d'autres vont préférer s'effacer devant tout ça puis mettre tout simplement Yahvé. YHWH.
Ah oui, le tétragramme sacré.
Alors, dans la tradition hébraïque, Dieu a un nom et il s'écrit ce nom-là. Il est difficile à prononcer. Nous, on peut le prononcer Yahvé, mais alors l'artiste, lui, ça se dit au 17e siècle aussi, il va représenter au milieu du buisson ardent le tétragramme pour évoquer que Dieu est là dans ce buisson-là.
C'est vraiment intéressant ce que vous nous dites, parce que ça permet de voir des interprétations très variées d'un même texte. Puis, ce que j'entends à travers ce que vous dites, c'est que les représentations de peinture, reflète aussi l'époque où ça a été peint. Ça dit ben aussi quelque chose de l'époque de l'artiste, de sa théologie, non pas seulement de la Bible.
Peut-être un dernier exemple. Notre époque, l'époque contemporaine, il y a une œuvre que j'aime beaucoup qui est une œuvre abstraite. Alors là, qui représente cet extrait biblique-là, mais de façon complètement abstraite, on regarderait ça, on le verrait pas que c'est nécessairement ça qui est évoqué, mais il y a comme une violence là-dedans, puis l'œuvre, le peintre, lui, il évoque la Shoah. Alors c'est un artiste qui va constamment faire des références à la Shoah et au peuple d'Israël d'aujourd'hui qui a vécu toutes sortes de souffrances, puis il relie les souffrances bibliques aux souffrances actuelles. Donc en tout cas, il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent être possibles par l'art. Justement, là qu'on est dans l'abstrait, là, représenter Dieu, c'est moins un problème parce que justement, on va être dans la lumière, l'obscurité, toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est pour dire qu'encore aujourd'hui, on en fait des œuvres, puis nos sensibilités contemporaines se reflètent dans nos représentations, dans nos interprétations.
Vous êtes toujours à l'antenne de Radio-VM à votre émission Foi et Turbulence, assumée aujourd'hui par l'équipe de pastoral des Dominicains. Et vous êtes en compagnie de Michel Proulx et de Sébastien Daune, notre invité aujourd'hui. Sébastien, vous nous avez parlé de diverses formes d'art, de liens avec la Bible. Pourquoi c'est important de parler de ce rapport aujourd'hui entre Bible et art?
Mais pourquoi c'est important? Pour moi, il y a au moins deux choses qui sont très importantes dans tout ça. D'une part, c'est de mieux comprendre le texte biblique. Alors, ça, c'est une occasion d'essayer de réfléchir sur différents récits qui ont été marquants dans la culture contemporaine, mais dans l'histoire des interprétations de la Bible. Alors, c'est pour mieux comprendre le texte biblique, d'une part. D'autre part, pour essayer d'apprendre à interpréter les œuvres artistiques comme telles. Souvent, on va regarder un film, c'était-tu le fun, c'était-tu pas le fun? Ah, c'était le fun. On peut aller un peu au-delà de ça. On peut essayer de réfléchir sur quelle est la qualité de l'interprétation qui a été donnée, puis c'est quoi qu'est-ce qui a été souligné par l'œuvre, pourquoi, quels sont les choix, bon, etc. Mm-hmm. C'est qu'on peut travailler sur l'œuvre comme telle. Puis comme on l'a évoqué aussi précédemment, on peut travailler sur soi. Moi, devant tout ça, est-ce que je suis à l'aise avec les choix qui ont été faits dans cette œuvre-là? Est-ce que c'est le Dieu auquel je crois qui est là? Est-ce que moi, j'ai une interprétation autre? Est-ce que je suis complètement d'accord, complètement pas d'accord? Bon, où est-ce que je me situe, moi, personnellement, devant cette œuvre et devant ce texte biblique-là? Parce que, comme lecteur de la Bible, ultimement, on a à interpréter le texte, nous aussi. On n'est pas obligé de faire une œuvre, une peinture, un vidéoclip ou quelque chose avec, mais en lisant le texte, on essaie de le comprendre et en le comprenant, on l'interprète, ce texte-là. Alors, nous-mêmes, on doit faire les mêmes choix que l'artiste fait, sauf qu'on n'est pas obligé de faire l'étape de le mettre sur le tableau. Donc, les étudiants qui vont s'inscrire au cours vont, d'une part, s'initier à la Bible, d'autre part, vont réussir à voir comment trouver des œuvres qui sont en lien avec la Bible, comparer ces œuvres-là les unes aux autres et aussi aux textes bibliques, puis, bon, essayer de mieux comprendre le texte à travers tout ça. Puis là, on a parlé de différents médias qu'on va privilégier. On va y aller comme ça. Alors, on va parler de différentes œuvres graphiques, alors des peintures et autres, des choses qu'on peut voir, des vidéoclips et cinéma et émissions de télévision, la littérature aussi. On n'a pas parlé de littérature, mais il y a des œuvres incroyables, littéraires, oui, qui reprennent. Umberto Eco, entre autres, a fait quelque chose de vraiment intéressant qu'on regardera. Bon, puis la musique, comme on l'a dit, alors la musique, c'est un média qui nous permet aussi de redire autrement la Bible, de le chanter et d'amener toutes sortes de choses là-dedans. Alors, voilà.
Alors, votre cours, Sébastien, se donnera probablement au mois de juin. Il nous reste à le préciser. Mm-hmm. Ce sera un cours de 15 heures qui se donnera 5 matins d'une même semaine. Et c'est à l'Institut de Pastoral des Dominicains, qui est au 2715 Côte-Sainte-Catherine. Les personnes peuvent déjà s'inscrire si elles le désirent, soit en téléphonant à l'Institut de Pastoral ou encore en allant sur notre site qui est ipastorale.ca. De toute façon, sur un moteur de recherche, vous pouvez facilement trouver le site et avoir toutes les informations. Je vous remercie. Il me reste à vous remercier, Sébastien, d'être venu à l'émission aujourd'hui pour nous parler de ces liens entre l'art et la Bible. Je suis Michel Proulx.
Moi aussi, je veux vous remercier, Michel, pour votre animation et aussi les auditeurs pour leur écoute attentive. Puis, je nous donne un devoir. Essayons de rester attentifs aux interprétations bibliques dans les arts, que ce soit à la télévision, au cinéma, à la musique. Quand on entend quelque chose, de se poser ces questions-là, c'est quoi l'interprétation qui est faite du texte biblique? Puis peut-être même retourner au texte même, aller lire, puis voir qu'est-ce qui se passe à travers tout ça.
Excellente interpellation, ce sera le mot de la fin. Et aux auditeurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.